Campus, il est midi.
Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Merci Brigitte.
Ça commence à se savoir. Ça commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits.
À Haubourdin.
Parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez.
Il est midi et une minute sur le 106,6 campuslille.com, Radio Campus Lille. C'est l'heure des points sur les i, point barre, les points sur les i, les noms sur les hommes. Et nous allons commencer cette émission par l'écoute d'une interview réalisée vendredi dernier sur le piquet de grève des ouvriers de l'usine Cargill à Haubourdin, qui, comme vous allez l'apprendre dans l'interview, eh bien, ont appris le 21 novembre dernier qu'un plan social a été appliqué pour le licenciement de 183 personnes sur 320 salariés. Depuis, eh bien, les ouvriers se sont mis en lutte et ça s'est soldé par un piquet de grève qui s'est tenu toute la semaine dernière, donc à Haubourdin. Je vous laisse écouter les grévistes.
L'annonce était 183 suppressions de postes. Donc, comme il dit Mickaël, oui, voilà, ça engendre pas mal de boîtes d'à côté, quoi, d'entreprises extérieures. Ça fait beaucoup plus que 183 personnes touchées, quoi.
Ouais, c'est 183 postes et ça toucherait avec les entreprises extérieures et tout ce qui est commerçant aux alentours. Ça, ils disent un poste supprimé à Cargill, deux postes supprimés en entreprise extérieure et aux alentours, quoi.
D'accord.
Indirectement.
Ouais. Et c'est combien de salariés en tout, donc ?
320.
320
salariés.
Donc 180, c'est plus de la moitié.
C'est
quoi,
plus de la moitié, hein. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme.
Et ça, vous l'avez appris en novembre dernier, hein.
Le 21 novembre, exactement.
D'accord.
Le coup de massue.
Ouais. Et il y a eu... Il y a déjà eu une mobilisation depuis le 21 novembre. Hein. Avant la période de Noël, tout ça.
Dès qu'a suivi l'annonce, donc tout le monde a arrêté ses installations et voilà. On est sorti, on a eu du mal à remettre en route l'usine. Forcément, après le coup de massue... pas évident, quoi.
Donc on a eu beaucoup de collègues en burn-out, hein, on peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Où certains ont accusé le coup tout de suite, d'autres ont mis plus de temps à réaliser. Ils sont encore chez eux à essayer un petit peu de réaliser parce que bon, c'est quand même une partie de notre vie pour la plupart.
Mm-hmm. Faut savoir la direction a mis tout de suite en place un service d'ordre et de sécurité. Et qui nous ont mis presque zéro en cellule psychologique parce qu'ils ont juste mis un petit flyer avec un 08 dessus et qu'on pouvait appeler, mais le 08 n'est pas accessible de nos postes de travail. Donc ça a été un peu compliqué. Donc j'ai repris du samedi matin, parce que j'ai su l'annonce du jeudi, j'étais en repos, et avec mes collègues délégués, mes collègues de la centrale qui sont pas délégués. Nous, on a géré pas mal de cas de mecs qui avaient le moral dans les chaussettes et de pleurs et tout
fait,
ça.
L'annonce a été faite un jeudi et le week-end qui a suivi, il n'y avait aucun cadre, rien, il n'y avait aucun représentant de la direction. Bien. Super. Il y avait donc aucune cellule psychologique, il n'y avait rien de mis en place. Les gens s'effondraient, pleuraient sur la poste de travail. Enfin, c'était épouvantable à vivre, épouvantable, donc humainement.
Là, on arrive à 2 mois donc, de l'annonce, il y a encore des gens à l'arrêt, des personnes encore à l'arrêt à aujourd'hui.
En arrêt maladie, quoi.
En arrêt maladie, ouais.
Ouais. Juste après l'annonce, ils juste ont après l'annonce. Craqué. Mmh. Et est-ce que, du coup, le fait de se mobiliser, d'être là ensemble aussi, de se retrouver, ça redonne de la force ou pas? Je sais pas.
Bah, les gens vont bien. Hein.
Bah, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut se mobiliser, voilà. Il faut quand même sauver maximum de postes. Ouais. Dans un premier temps, ce serait tous les postes. Mais bon, le PSE, voilà, il est mis en place. Et voilà,
Moi, personnellement, j'ai été en arrêt pendant 2 semaines, donc en burn-out, parce que je savais que si j'allais travailler, ça n'allait pas aller. Hein. Pas que je déprimais, mais plus que j'étais très énervé, j'aurais peut-être pu faire une bêtise. Donc mon médecin a préféré me mettre à l'arrêt. Et bah, finalement, j'étais à la maison et j'avais besoin de voir les copains, donc revenir m'a fait un grand bien, même si c'est vrai qu'on parle que de ça, il fallait que je voie les copains, ouais. C'était important. Mmh.
C'est terrible, quoi. S'il n'y a pas un support des copains derrière, bah, tu t'effondres vite, quoi, en fait, mmh. En réalité. Mmh. C'est en ça que c'est super important de se réunir comme ça, dehors, autour d'une palette qui brûle, voilà, c'est super important, ça fait tenir, quoi. C'est important.
Ouais, on peut dire, juste pour les gens qui ne voient pas mais entendent, que donc il y a 3 bras 0, donc un piquet de grève qui est juste devant l'usine.
C'est ça.
Pour l'instant, il n'y a pas eu d'occupation ni de blocage. Hein.
Non, mais en fait, c'est ça, parce que en plus, la direction a cette chance d'avoir des gens qui respectent tellement leur usine, qui l'aiment tellement, que les installations ont été arrêtées proprement, qu'il n'y a aucune dégradation à l'intérieur. Ils avaient déjà, comme tu disais tout à l'heure, ils ont mis un système de sécurité, machin, avec des gardes du corps, on sait pas trop quoi. Et en fait, ça sert à rien, parce qu'il n'y a personne qui va... Ouais, effectivement, il y a quelques tags, des autocollants.
Il n'y a pas d'attaque physique sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit dans la boutique.
Malgré les provocations de la direction. À maintes reprises, nous provoquent, hein, comme vouloir assister à nos âgés, alors que c'est formellement interdit. Mmh. Et ils savaient très très bien, ça a été dit, que les gens allaient s'énerver, et ça a été le cas. Mmh. Donc c'est vraiment de la provocation de leur part, et je pense que c'est aussi pour nous faire dégoupiller et pour que nous on soit perdants, quoi, dans l'histoire, et que eux soient les victimes.
Ouais. Et du coup, ouais, pour revenir justement sur l'attitude de la direction, donc il y a ces provocations, et après comment ça se passe, donc ils ont mis en place ce système de sécurité, et puis comment ils accueillent vos revendications.
Ah bah, les accueillent nos revendications. En fait, si tu préfères, ils ont réussi à mettre en place
un syndicat qui est opposé à nous.
Voilà.
Mm-hmm. La CFDT, bon, pas les citer.
Voilà, mais c'est toujours bien.
Qui leur permet de garder quasi la mainmise sur les négociations. Donc, ils proposent un peu ce qu'ils veulent avec l'acquiescement de syndicats opposés.
Mm. Tu sais, nous, on passe pour les bourrins, comme dans tous les médias. Hein, les mecs qui disent toujours non et tout ça.
Notre directeur propre n'est plus dans l'usine, et ils ont fait appel à un directeur spécialisé dans les plans, et donc il est là, il sait très bien de quoi il parle.
Payé 1700 euros par jour.
Ok. Ah ouais.
Brut, hein.
Je vois. 1700 euros par jour.
Par jour.
Ok, c'est brut, le porteur, hein, de flingue de la direction, en fait.
C'est ça. Il est là.
Il y a lui, il y a monsieur.
Il y a une mission d'un an, et il est là pour un an, il est là pour installer ce plan.
Ils ont provoqué un de nos élus. Une institution chez nous, si vous voulez. Ils ont convoqué Yannick et pour ils lui ont envoyé une lettre recommandée pour
en vue d'une sanction.
Voilà, c'est ça. Et genre, on pouvait aller jusqu'au licenciement. Donc,
le 23 décembre.
Il faut surtout rappeler qu'ils ont poussé la personne qui met les courriers à aller mettre ce recommandé pour qu'il arrive chez lui le 23 ou le 24 décembre. Pour qu'il... Le fait de vouloir lui mettre la pression et nous intimider, nous, par la même occasion, ça a eu l'effet inverse, en fait. Ça a plutôt remonté le moral des troupes.
Ça a rassemblé les gens.
Voilà. Ouais. Et puis voilà, quoi.
Et on peut peut-être rappeler, du coup, que donc Cargill, c'est quand même le premier groupe, la première multinationale au monde en agroalimentaire. J'apprenais hier, en regardant le spécial investigation, que leur chiffre d'affaires, c'est 2 fois celui de Coca-Cola et de McDonald's cumulés. Voilà. Donc c'est un groupe absolument énorme, dont on entend très très peu parler, hein, très discret.
D'ailleurs, on ne trouve rien comme info quand on cherche sur Internet. Cargill, on ne trouve rien comme info.
Ouais.
On ne trouve aucune info, c'est tentaculaire.
Donc les bénéfices en 2019, si je ne me trompe pas, ils sont à 3 milliards de dollars de bénéfices.
Et c'est alors, et donc Cargill, c'est aussi un nom de famille, hein, si je dis
ouais,
pas
c'est
de
famille,
bêtises,
hein, c'est familial. Hein. C'est pas coté en bourse, rien du tout, c'est vraiment familial.
Et c'est 14 milliardaires,
cette famille. Ils n'ont que 14 milliardaires dans la famille.
C'est ça, ouais, ok. Et du coup, c'est quoi les raisons mises en avant pour ces licenciements?
Alors, d'un point de vue comptable, ils ont essayé de nous expliquer que le blé était plus rentable en ce moment.
Que le maïs.
Que le maïs qu'on traite, hein. Nous, on fait que du maïs.
Vous faites de l'amidon, hein, c'est ça?
C'est ça, l'amidon industriel et l'amidon alimentaire, etc. Et sauf que quand on regarde les chiffres d'un point de vue comptable, on s'aperçoit que leurs chiffres sont bidons, en fait.
Mm-hmm. Ouais, nous, ce qu'on a tout de suite dit en sortant de la réunion du CSE extraordinaire du 21 novembre, c'est qu'ils coupaient l'usine en deux pour la fermer en deux fois. Mm-hmm. Parce que c'est, pour eux, c'est plus facile. Et s'ils disaient à tout le monde que l'usine ferme, je pense que...
Ah bah là, il y aurait personne pour aller bosser pendant qu'il y a un piquet de grève. Quoi.
Un peu plus violent pour eux, je pense. Donc.
Et c'est quoi aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure autour du feu, justement, les stratégies que déploie la direction pour vous diviser, vous, entre
salariés. La moitié de l'usine de production.
Donc il y avait ça, ouais.
Donc il y a une moitié qui va être dehors, il y a une moitié qui est susceptible de rester, sachant que personne n'est sauvé. Hein,
En termes de poste,
voilà. Donc divisé pour mieux régner.
Mm-hmm. Après, voilà. Une sorte suite aux négociations qu'ils ont avec les deux autres OS qui sont dans l'usine, ils nous sortent des primes qui commencent
attractives.
À être attractives pour certaines personnes, parce qu'ils parlent de un mois de salaire par année d'ancienneté, sans plafond. Mais donc c'est très intéressant pour les anciens. Du coup, ils pensent qu'ils ont la somme les satisfait, c'est ce qui est compréhensible. Et donc du coup, ils sont un peu moins avec nous. Mais bon, ça.
Sauf que pour les petits jeunes, ça va être différent, quoi.
Voilà. La division, elle se fait aussi dans le sens où les gens qui eux rentrent pour travailler en ce moment, en disant que ceux qui sont dehors comme nous, bah, ça porte préjudice, non pas à 183 postes, mais ce sera l'arrêt complet de l'usine. Et donc du coup, ils mettent aussi une pression comme ça sur eux. Et ça fait partie de la division aussi des gens.
C'est leur stratégie.
Ouais, la stratégie, c'est quand on a commencé les actions et les piquets de grève, ils nous ont tout de suite dit, là, on en sauve 120 en gros, ouais. Mais si ça continue, vous continuez à bloquer, ça sera tout le monde dehors. Bonne chance.
L'avocat qui nous représente précise bien que le plan il s'arrêtera pas. Voilà, c'est un PSE à terminer. Et puis, voilà.
Mm-hmm. Et sachant qu'il y en avait donc déjà eu un
en 2016.
Hein.
C'est tout ce qui est externe, c'est services partagés. Voilà. C'est pas les organes de production. Là, ils ont envoyé tout ce qui était services paye et tout ça, ils ont envoyé ça en Bulgarie.
Ils ont gardé une personne en France parce qu'ils sont obligés de garder au moins une personne en France pour la paye. Et là, c'est pareil, ils ont proposé à des gens de partir travailler en Bulgarie pour le double du salaire bulgare. Donc le SMIC bulgare, c'est 300 euros. Là-bas, du coup, ils passaient de 2000 euros en France à 600 euros en Bulgarie.
Bon. C'était combien de personnes à l'époque qui ont été licenciées, du coup?
26. En fait, ouais, 26. Il y en a qui ont été reclassées, ouais. Quelques-unes. Donc, il y a eu 22 licenciements. Enfin, 22 personnes qui ont perdu leur emploi.
Mm-hmm. D'accord. Donc, je reviens au commencement. Au Bourdin, il y a un sacré soutien, vous disiez, donc des habitants, des commerçants qui ramènent des merguez, des petits pains.
C'est ça.
Maintenant, on a eu 5 galettes.
On est soutenu par la mairie, par des gens qui ramènent, qui participent à la caisse de lutte.
C'est la cagne de Tichy aussi sur Internet qui monte. Ça fait du bien qu'un peu tout le monde dans toute la France. Avoue aussi ce que fait Cargill actuellement.
Donc il y a une cagnotte en ligne pour vous soutenir.
Oui, c'est ça.
Donc là, c'est peut-être bien aussi que les auditeurs et auditrices l'entendent et puis à y faire un petit tour s'ils peuvent mettre un petit coup de pouce et puis aussi pas hésiter à passer sur le piquet.
Donc, à mettre des petits messages aussi. Il y a une page publique sur Facebook, faire front face à Cargill.
Quoi. Aussi deux sites qui se sont mobilisés, donc deux sites Cargill qui se sont mobilisés pour nous.
Ok.
Donc aussi ça a été affiché.
En faisant une intersyndicale, CFDT, CGT se sont mobilisés, se sont mis en grève 24 heures. Donc c'était les sites de Bopt et Redon.
C'est ça.
D'accord.
Donc eux se sont mobilisés
juste
pour soutenir le PSE, enfin pour nous soutenir les 183 personnes, les 183 postes menacés.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à...
Une petite anecdote qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure. On a appris ça le 21 novembre, et là on a reçu chacun un courrier à la maison pour une participation au bénéfice de l'entreprise. Voilà, maintenant, comment l'interpréter ?
Bon, elle n'est pas énorme, hein, mais bon. Ouais, ça reste, ouais, ça reste une participation.
Qui dit participation bénéfice, dit bénéfice. Voilà.
Жар превращается в колоссальный светящийся купол.
Opération Rouge-Gorge. Infection Papyrus. Doré pour la prise de texte. Prêt à déclencher le putsch.
Coup de marteau caché sous le manteau, ma faucille cut les mots, prête à tracer, puis trancher le rideau de fer, scalper le capital des ondes radio. J'te pète le son complète, soviet, d'un pouvoir sans tête, l'internet, sionale et sans queue ni tête. Alors j'affrète du fond de la steppe des rimes d'esthète. Le CD décédé nous a soudés pour déterrer les fantômes du PC. Mon flow colle à la cause et dépose une rose sur la tombe de leur prose. J'te bouffe la soupe de l'austérité, je crache mon bord sur le poste télé. Je tape dans le rouge, la voix scarifiée, j'ai la gorge rouge, la rime irradiée.
Un lever de rideau.
Le limiteur giron rouge
balance sur tout ce qui bouge.
Je serre sur la toile rouge
comme un boulet rouge.
Je vois rouge,
transpire le pont rouge.
Les yeux rouges
tâchent comme du rouge.
Faut que ça bouge.
J'appuie sur le bouton rouge.
Soviet Supreme Red Army, et donc vous venez d'entendre une interview collective réalisée avec les ouvriers en grève de l'usine Cargill à Haubourdin. Alors je précise que à la suite de cette interview, il y a eu une réunion, j'ai appris donc que le piquet de grève serait levé cette semaine, donc pas la peine d'y aller. Les formes d'action, ils ont décidé de faire évoluer les formes d'action, je n'en dis pas plus, il suffira de suivre un petit peu leur fil d'actualité. Et puis, je précise quand même que le groupe Cargill est un des premiers responsables au monde de la déforestation, notamment pour faire pousser du soja au Brésil, pour faire pousser des palmiers à huile de palme en Indonésie, le blé en Ukraine. Bref, c'est le premier négociant mondial de matières premières qui a notamment fait énormément d'argent pendant ce qu'on a appelé les grèves de la faim au début des années 2010.
Non, ouais, les émeutes de la faim.
Les émeutes de la faim, c'est ça, en spéculant sur le prix des matières premières. Et que, ben voilà, je vous invite à suivre ce mouvement de grève des ouvriers de l'usine Cargill à Haubourdin. Et on ne peut que leur souhaiter, eh bien, que leurs revendications aboutissent et qu'ils puissent sauver le maximum de postes, sachant qu'on s'en fout de sauver l'usine, qui fait pas forcément des choses très belles, mais en tout cas, les personnes qui y travaillent, elles, sont belles et importantes. Voilà.
Et si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur le groupe Cargill, ou en tout cas la malhonnêteté des dirigeants, il y a un documentaire en ligne qui s'appelle, bon, vous tapez Cargill, et puis c'est un spécial investigation,
ça, ouais,
qui date
ouais.
De, il y a 5-6 ans maintenant, mais le gros de la stratégie de ce grand groupe est toujours valable, je pense.
Oui, bah c'est là que j'ai appris leur rôle très important dans la déforestation un peu partout dans le monde. Ils font aussi le cacao en Côte d'Ivoire, enfin bref, ils sont vraiment sur tous les coups les plus foireux en termes de matières premières alimentaires dans le monde.
Mmh. Eh bien, la désindustrialisation, les ouvriers qui vont perdre leur boulot, des fois, ça laisse de ce fait-là certains politiciens faire croire que ça, ils vont les sauver, que tout ira mieux s'ils votent pour eux plutôt que pour d'autres.
Et notamment, moi, pourquoi j'en parle aujourd'hui, parce que le 20 janvier, eh bien, c'est traditionnellement l'Inauguration Day, le jour de l'investiture au cours duquel le président états-unien prête serment et prend ses fonctions comme président des États-Unis. Et donc ça date depuis le second mandat de Roosevelt en 1937. Donc ça y est, compté depuis Roosevelt, tous les 20 janvier, en tout cas pour leur premier mandat, les présidents ont tous fait des discours plus ou moins trompeurs. Et donc le 20 janvier 2017, le dernier, c'était Donald Trump. Et je vous propose d'écouter ce qu'il a osé déclarer lors de son discours d'investiture.
Toutefois, la cérémonie d'aujourd'hui a une signification toute particulière parce que aujourd'hui, nous ne faisons pas simplement une passation de pouvoir d'un gouvernement à un autre ou d'un parti à un autre. Nous faisons une passation de pouvoir de Washington et nous le rendons à vous, le peuple.
Rien que ça.
Depuis trop longtemps, un petit groupe dans la capitale a joui des récompenses de l'État alors que c'est le peuple qui en a payé les coûts. Washington s'est développé, mais le peuple n'a pas pu partager sa richesse. Les politiciens ont prospéré, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'establishment s'est protégé lui-même, mais pas les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires. Leurs triomphes n'ont pas été vos triomphes. Et pendant qu'ils faisaient la fête dans la capitale de notre nation, il y avait trop peu à fêter pour les familles en difficulté sur tout notre territoire. Tout cela change ici même et maintenant, parce que ce moment, c'est votre moment, il vous appartient.
Donc voilà, après il annonce qu'il faut des écoles, des usines et moins de trafic de drogue et de morts à cause de ça. Parole, parole, parole. Puis c'est America First, protectionnisme économique. Il annonce le protectionnisme économique, mais là, il vient de signer la baisse des droits de douane sur les produits chinois. Après, il dit qu'il va éradiquer l'islamisme radical de la surface de la Terre. Et après, il sort des choses comme la langue de bois, c'est fini. Et alors ça, c'est assez magnifique sur le patriotisme, écoutez.
Quand vous ouvrez votre cœur au patriotisme, il n'y a plus de place pour les préjugés.
Qui a compris ?
Ah. Moi, j'ai surtout compris ton clin d'œil musical. Le seul petit bout de musique que tu as passé, c'est quand même un chant nazi.
Oui, après, je ne vais pas faire des raccourcis trop courts, bien qu'on sait que l'extrême droite états-unienne a porté Trump, en tout cas contre. Voilà. Oui, ça, c'était le clin d'œil. Mais parce que sinon, dans les autres musiques, c'est Heil to the Kiff. Et ça, c'est valable pour tous les présidents. Hein. Il y a le chant Heil to the Kiff. Voilà. Heil, oui.
Ah oui, d'accord, oui. Ok.
Allez, tire trois ou quatre salves. Hein ? Ça, c'est le Heil to the Kiff. Chaque président, les 20 janvier.
D'accord.
Là, les soldats disent qu'ils vont se sacrifier pour le président des États-Unis, pour le peuple, qui lui donne totale obéissance. Bon, 20 janvier, donc là c'était en l'occurrence Trump qui est toujours en cours, mais de ce fait-là je me suis tapé un petit peu les discours des différents présidents des États-Unis et j'ai pu prélever des phrases aussi étonnantes que celle de Trump disant que quand il y a le patriotisme, il n'y a plus de place pour les préjugés. Mm-hmm. Je pensais plutôt l'inverse, mais Obama, lui, avait fait aussi des grandes promesses, des grandes déclarations comme ça, de la même veine que Trump qui dit « le pouvoir est maintenant transféré au peuple ». Ça, c'est quand même assez hallucinant. Mm-hmm. Obama lui avait dit en le 20 janvier 2009 « En ce jour, nous sommes venus proclamer la fin des doléances mesquines et des fausses promesses, des récriminations et des dogmes usés qui, pendant trop longtemps, ont étouffé notre politique. » C'est beau.
Comme l'antique.
Il s'est aussi engagé à prendre les responsabilités en Irak pour laisser le pays à son peuple, qu'il allait établir une paix durement acquise en Afghanistan. Voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et puis pour remonter dans le temps, JFK en 1961, toujours un 20 janvier, c'est une phrase qui est quand même un peu restée, c'est « Et vous, mes compatriotes, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Mes chers compatriotes et citoyens du monde, ne vous demandez pas ce que l'Amérique fera pour vous, mais ce que nous ferons tous ensemble pour la liberté des hommes. Richard Nixon, 20 janvier 1969. On ne peut pas espérer faire de tout le monde un ami, mais on peut essayer de ne pas en faire notre ennemi. Voilà, j'avais pioché plein de petites phrases comme ça, des différents discours d'investiture des présidents des États-Unis en ce 20 janvier 2020, c'est ça, nous maintenant on est 20-20-20, ouais, c'est ça. Oui. Oui.
Ah oui, 20-1-20.
Et puis à quoi, qu'est-ce qui se passe après?
Un ange passe dans les studios. En tout cas, voilà, tes extraits montrent bien, en effet, le populisme récurrent des discours d'investiture à l'américaine. Quoi. C'est assez édifiant, ce petit condensé là montre que d'un Nixon, d'un Kennedy, en passant par un Nixon, un Trump ou un Obama, en effet, les grandes paroles s'envolent.
Allez, une petite dernière de Trump. Que nous soyons noirs, marron ou blanc, nous sommes constitués du même sang rouge des patriotes. Christophe, après toutes ces paroles, ces mauvaises paroles-là, toi, tu voulais nous parler de calme, justement.
Oui, de calme, puisque... la lecture de certains articles dans des quotidiens dits très sérieux. D'ailleurs, je vous épargne, j'avais choisi deux extrêmes, mais bon, voilà. Le calme. C'est-à-dire que, comment dirais-je, les bouddhistes transmettent comme message la montagne ne doit pas se déplacer. Et c'est vrai que quand on se déplace dans la ville, d'abord nous sommes... Outre le bruit ou l'invisibilité de la pollution, dans tous les cas de figure, il y a aussi les écrans qui coulissent et nous rappellent des injonctions de consommer. Mais bien sûr, dès que l'on ouvre sa télévision ou son portable, nous sommes également perturbés, alpagués par des informations qui, ou bien venant de notre sphère privée ou amicale, familiale, ou bien venant... d'un filtre plus ou moins, si je puis dire, serein que nous pouvons avoir pour nous informer du monde, les informations en ce moment sont plutôt déstabilisatrices. Alors, en ce qui concerne la touche d'humour, l'Australie qui continue de brûler, eh bien, certains sont tellement dans le déni qu'il y a une manifestation internationale sportive au chapitre du pain des jeux qui s'ouvre en ce moment en Australie, qui sont les Open d'Australie en tennis, et qui sont plutôt délicats à mener parce que la pollution, etc., etc., est telle que les sportifs, pour fournir un tel effort, sont soumis à rude épreuve, et qu'en plus il y a donc la course aux données médicales par rapport à la mesure de etc., pour la respiration ainsi que pour le public. Mais comme il y a tellement d'enjeux financiers pour les rétros diffusion et qu'il s'agit de centaines de millions de dollars, etc., etc., outre un premier ministre australien climato-sceptique qui était à Hawaï et qui est revenu un peu précipitamment pour, si je puis dire, non pas constater les débats, mais enfin essayer de trouver des éléments de langage. Nous avons là aussi tout l'ordonnancement et des responsables de l'Open d'Australie qui essaient aussi de dire « Tout va très bien, sinon Madame la Marquise, du moins messieurs les joueurs de tennis. » Voilà.
Il me semble que certains joueurs, peut-être pas tous, mais se sont engagés aussi à faire tourner une sorte de cagnotte pour aider les sinistrés. J'avais entendu parler de ça.
Oui, oui, ça fait partie de comment dirais-je, la ligne empathique qu'il faut toujours avoir dans ces cas-là, parce que sinon, il y a un tel décalage entre l'équivalent de la taille de l'Irlande qui est en train de partir en fumée et une partie du patrimoine. Faut-il que ce soit soi-disant inscrit à l'UNESCO pour qu'on soit dans la conscientisation que cela est regrettable, s'il faut à chaque fois qu'on nous explique que le monde est comme une forme de musée et que là c'est l'UNESCO, là c'est le patrimoine de l'UNESCO, pour que nous soyons là en disant « Ah, il faut faire attention, c'est beau », enfin c'est complètement ridicule. La planète n'est pas un musée dans lequel on se promène. Et voilà, là c'est donc l'équivalent de la taille de l'Irlande. Alors il y a deux chiffres qui me fascinent. Officiellement il y a 26 morts. C'est une statistique. Et pour les animaux, c'est 1 milliard. C'est l'autre statistique qui est mise en parallèle. Les journalistes qui aiment toujours trouver des mots pour agripper ont comparé, alors je ne sais pas lequel a eu cette idée lumineuse, un Tchernobyl australien, voilà, climatique. Voilà. Donc nous avons le Fukushima japonais, le Tchernobyl russe, et là on a le Tchernobyl climatique. En tout cas, j'avais également prévu de lire un article qui avait été publié dans Le Monde en 93 et qui était signé par Monsieur Le Drian, Monsieur Hollande et Monsieur Mignard sur le titre Rupture et qui annonçait déjà en 93 une remise à plat de la conception en France du système d'assurance maladie et de la solidarité par rapport à la sécurité sociale. Tout cela pour dire qu'il ne faut pas croire que l'offensive, entre guillemets, qui est menée contre les retraites, l'offensive qui a été menée contre l'assurance chômage, etc., sont des événements qui sont assez récents. C'est donc depuis les années 90 que, au fur et à mesure, et quels que soient les gouvernements, il n'y a de cesse que de détricoter, de remettre en cause le principe universel d'égalité qui a été construit en 1945. Et à chaque fois, c'est justifié par la notion d'équilibre, parce que ce n'est plus possible, etc. etc. Donc il y a des lignes de fracturation. Au fur et à mesure, avec ce preux et noble discours de dire que bien sûr, il faut garantir la protection pour les plus pauvres. Alors ça s'est mis en avant, donc toujours on crée la CMU, on crée l'allocation pour les allocations longue durée, l'ALD, la CMU, l'ALD. Donc à chaque fois qu'est remis en cause un dispositif de la sécurité sociale, que ce soit l'assurance chômage, l'assurance maladie ou par exemple les retraites, il est toujours mis en avant des pieux sentiments et qu'il s'agit d'améliorer le système, mais sous couvert de ces réformes, toute une partie ou sinon la majorité des autres assujettis, enfin, c'est pas le terme exact, des autres bénéficiaires, voient, à bien y regarder de près avec une loupe, une diminution des remboursements, des prestations, de la qualité, etc., etc. Voilà, c'est ça que je voulais également dire, c'est que les choses ne se font pas comme ça, elles sont pas en train d'arriver, ça fait maintenant à peu près 30 ans, voilà, que des forces politiques, sociales-démocrates ou autres sont à la manœuvre, libérales, qu'importe.
Économiques et financières,
pour, en quelque sorte, mettre en pratique la théorisation par le CNPF, maintenant le MEDEF. Je me souviens, on avait lu ici un texte de M. Denis Kessler, n'est-ce pas, qui était très clair.
Il disait qu'il faut détricoter méthodiquement les conquêtes du programme national de la résistance, du CNR, Conseil national de la résistance.
Voilà, c'est ça. Donc, à un moment donné, il suffit de regarder les textes. Il ne s'agit pas d'inventer je ne sais quel brûlot Curet était une espèce de science-fiction.
Bah, je pense que d'ailleurs cette phrase, elle incarne très bien la continuité de la politique française depuis en effet une trentaine d'années. Oui.
Voilà. Sous couvert d'économie, eh bien...
Et de changement de couleur des gouvernements.
Voilà. Alors, il y a un lien entre l'Australie, par exemple, et ce que je viens de dire par rapport au détricotage du socle de la sécurité sociale, c'est que le budget qui était alloué en Australie par rapport au débroussaillage, la protection des forêts, etc., etc., avait été drastiquement cassé, diminué depuis quelques années sous les gouvernements successifs. Et donc, évidemment, on ne peut pas être le premier producteur mondial de charbon, je pense, c'est à peu près ça, et avoir par habitant une des plus grosse émission de CO2 de la planète, le ratio par rapport à la population australienne, et puis d'un seul coup se dire que ça brûle, et en se rassurant, disant que ça a toujours brûlé, puisque l'Australie, les arborigènes ont toujours eu pendant des milliers d'années des techniques de brûler une partie du bush pour la chasse, etc., etc., mais là ça n'a strictement rien à voir.
Ah ben non, mais bien sûr, ça c'est souvent d'ailleurs invoqué, soi-disant, mais oui, la culture sur brûlis, on nous sort la même chose par rapport à l'Amazonie, on nous sort la même chose par rapport à l'Australie, en effet, ou encore à Madagascar, hein. Comme quoi, mais ce sont des techniques ancestrales, sauf que quand on voit que, par exemple, les Amérindiens en Amazonie, ils brûlaient tous les 4-5 ans l'équivalent d'une clairière représentant quelques centaines de mètres carrés. Quand aujourd'hui, des gens mettent volontairement le feu à des dizaines de milliers d'hectares de forêt pour ensuite y planter du soja et faire paître des bœufs, la comparaison ne peut absolument pas être tenue avec bonne foi plus d'un dixième de seconde, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas à la fois demander aux populations de se calmer en regardant... compter 15-15, 30-15, etc., le tennis, dans le même pays ou au même moment, l'air peut devenir irrespirable, parce que là, en effet, la capacité de donner le change devient délicate. Et puis, je voulais également glisser vers les municipales en France. Pourquoi ? Parce que, de tous côtés, il est dit une poussée verte. Alors voilà, je vous épargne les villes de France dont peut-être les Verts deviendraient les nouveaux maires, Bordeaux, Lyon, peut-être, etc., etc. Alors, je ne vais pas dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je ne sais pas. La seule chose que j'ai compris, c'est que de s'imaginer qu'il suffirait de l'imprimatur écologique pour que des populations apeurées par le réchauffement climatique et toutes sortes d'autres dispositifs de conscientisation du péril qui traverse leur esprit, et que donc il suffirait en quelque sorte d'avoir un maire vert là pour que les choses aillent beaucoup mieux. Le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la ligne bleue des Vosges, voilà.
Ah bon ?
Non, je ne crois pas, tout à fait. La pollution liée à Fukushima, qui a continué et qui continue de salir et d'abîmer les écosystèmes au Japon, n'est pas circonscrite à des traits qui seraient dessinés par des technocrates japonais en disant bah, « voilà, là, la situation est tout à fait maîtrisée par rapport à ce paramètre ». Et que surtout, je l'avais déjà dit la semaine dernière, l'exemple est donné en Autriche, on peut parfaitement être extrêmement de droite et faire alliance avec des Verts, entre guillemets. En Allemagne, c'est la même chose qui est en train d'être réfléchie. La CDU et la CSU réfléchissent à une alliance avec des Verts, et dans certains Länder, c'est déjà le cas. Donc,
parmi les Verts français, il y en a qui l'ont dit avant les municipales que cette fois-ci, ils n'auraient aucun problème à faire des alliances avec la droite. Hein. Ça a été vraiment verbalisé par certains candidats.
C'est-à-dire le mot vert n'est pas un talisman, puisqu'on peut parfaitement se dire vert et avoir une approche extrêmement libérale et je dirais même élitiste de... dégradation et de la manière de protéger la population, et on peut aussi avoir une approche qui est de dire que l'écologie est indissociable d'une réforme sociétale et de la solidarité. Voilà, donc en tout cas, forcément, ces deux manières d'appréhender l'écologie sillonnent le cerveau de toute personne qui se dit écolo, et donc il faut savoir de quel côté cela va. Donc c'est pour ça que nous sommes en janvier, les municipales approchent. Il y aurait peut-être après une tentative de référendum par rapport à des questions écologiques. Voilà ce qui permettrait au chef d'État de reprendre la main sur ce dossier. Enfin, voilà, on a à la fois un empilement de nouvelles qui nous parviennent du reste de la planète, mais qui sont quand même filtrées, puisque je pars du principe que quand on n'est pas sur place, c'est assez délicat de se rendre compte. Je ne suis pas en Australie, voilà, je ne peux donc que d'avoir une impression d'être happé par le gigantisme de cette déflagration de destruction, mais je ne suis pas sur place. Et puis, me dire qu'est-ce que c'est que de vivre à 45 et 50 degrés de chaleur, voilà, au quotidien. Mais en tout cas, la montée de discours, comme quoi il y aurait une espèce de divine nouvelle voie, la voie verte, et qu'il suffirait que, en quelque sorte, un programme soit vert pour que Mazel Tov, tout soit réglé, je me permets de surligner que tout cela est un peu suspect. Il va falloir regarder cela de très près.
Bah, puis ce serait complètement oublié la différence entre justement cette pseudo-écologie technique, technicienne, qui pense qu'il ne faut rien changer, tout changer pour que rien ne change, c'est-à-dire toujours des nouvelles innovations techniques, toujours plus de gaspillage pour résoudre les problèmes qui ont été créés précédemment, et donc la course en avant, et du coup le péril écologique devient une source de croissance. Donc finalement, c'est assez merveilleux, et puis aussi une source de pouvoir, hein. On en parlait la semaine dernière sur le risque de dictature verte, et puis à distinguer complètement de l'écologie politique qui, elle, en effet, articule les questions sociales, des questions de justice sociale, des questions de rapport au pouvoir aussi, avec la manière de s'emparer et d'essayer d'apporter des réponses à tous toutes les catastrophes écologiques qui nous pendonnaient ou qui sont déjà là, quoi, tout simplement.
Oui, alors je crois que plus rien ne nous pend au nez, on est en train d'avancer au travers d'épisodes dont à chaque fois, voilà, maintenant nous avons les rapports scientifiques qui tombent de tous côtés, etc., etc. Mais certains continuent d'avoir cette approche qui est très subtile, qui est de dire nous manquons de paramètres, nous n'avons pas assez de recul, nous ne pouvons pas, avec ces mesures, penser qu'il n'y a pas forcément de lien analogique entre tel phénomène et tel autre phénomène, etc., etc. Voilà, maintenant c'est un peu la tendance, avec en même temps une montée donc de la, en quelque sorte, ça s'appelle une forme d'opportunisme. Il est clair que maintenant, parfois, à certains moments de la vie politique, n'importe quel, si je puis dire, je n'allais pas dire âne, mais enfin, il suffit d'avoir un tel dossard pour être élu. Après les législatives, il suffisait d'avoir le dossard en marche, et puis ça passait à peu près partout. Voilà. Là, il semblerait qu'on nous prépare au dossard vert, et évidemment, une alliance en marche verte. Ça, c'est assez simple, en marche verte.
Soleil vert.
Voilà. Ah bah, de toute façon, il me semble que c'est le slogan de Spibou, hein, pour faire respirer Lille, un truc comme ça.
Oui, bah ça, je crois qu'à Lille, à peu près tous les candidats nous ont repeint leurs affiches électorales en vert. Hein. Ça aille en effet de l'extrême droite à la gauche. Tous ont mis leur touche verdâtre.
Il y a toujours deux mesures. J'ai quand même un peu regardé, parce qu'il ne faut pas parler avec des involtures. Donc j'ai quand même regardé un peu ville par ville qui était candidat et le système des alliances et l'ancienneté du travail militant, etc. Donc les situations sont tout à fait différentes entre Bordeaux, Marseille, Lyon, etc., etc. Parce qu'en effet, dans telle ville, il peut y avoir un candidat entre guillemets écolo qui est un militant honnête et de longue date sur le terrain social et qui réussit avec humilité à faire l'alliance de toutes les forces dites progressistes et ça marche. Et à d'autres endroits, il y a des dissidences, etc. Enfin bon, je vous épargne ces histoires de charcuterie, etc., qui sont assez fatigantes et qui dureront 24 heures le soir de la soirée des municipales, premier tour et ensuite second tour, avec bien sûr on se rit sur gâteau à Paris, qui sait qui devient maire de Paris. Enfin, pour la faire court, on gagne du temps. Tout cela est très important. Mais enfin, j'ai noté que la gratuité des transports publics, la question du logement social et en effet le verdissement, c'est-à-dire pour ça que je faisais le lien avec l'Australie, le Premier ministre d'Australie promet qu'il va rebâtir, remettre, pardon, rebâtir, quel lapsus, l'arbre est une maison, bien sûr, un milliard ou deux milliards, qu'importe les chiffres, d'arbres, et regarder de près pour certaines villes, on a vraiment l'impression qu'il suffirait de mettre des petites fleurs et des arbres un peu là et ceci ou cela, et tout serait réglé. Donc en effet, je ne pense pas qu'il s'agisse simplement de la gratuité des transports, plus un peu plus de têtes d'arbres, mm-hmm. pour avoir une approche et un programme écolo. Voilà.
Surtout qu'en général, quand ils parlent de replanter des arbres, ils plantent des arbres qui sont uniquement liés à aux scieries, hein, en fait. C'est concrètement, c'est une espèce de gestion de la forêt comme une usine, quoi, comme une entreprise.
Hein. Oui, et puis le côté pratique pour l'homme. Ah, il faut des arbres pour absorber le CO2, nanana. Donc c'est des arbres, mais un écosystème, tu refais jamais.
Non.
Là, tu... les habitats de, je sais plus, 250 espèces menacées, là, 327 espèces menacées touchées par les flammes, les habitats de 327 espèces menacées touchées par les flammes en Australie. Ça, c'est pareil, ça se remplace plus à un moment après.
Et ce sera pas en plantant du pin Douglas sur des centaines de milliers d'hectares qu'on recrée une quelconque diversité permettant à la vie de se déployer.
Oui, et puis des forêts qui sont dites millénaires d'eucalyptus qui ont été là depuis des milliers d'années. Qui brûle, en effet, ça ne peut pas être substitué, reconstruit comme ça par un coup en claquant dans les mains. On n'a pas encore. Voilà, ça, c'est pas possible. À moins de mettre du plastoche, faut reconnaître que de ce côté-là, il y a une espèce de temporalité de la présence végétale et animale. Voilà, un rythme. Et quand c'est détruit, nous n'avons pas encore, même si nous sommes très pressés, très rapides et tout est en accéléré, on n'a pas cette capacité au remplacement, n'est-ce pas, de nos écosystèmes. Voilà. Alors qu'on est un peu obsédé par ces histoires de remplacement de ceci ou de remplacement de cela entre nous, hein, le grand remplacement, le remplacement de ceci ou cela, à bien y regarder, on se rend compte que remplacer les abeilles et remplacer les aubépines et remplacer les koalas et remplacer les kangourous, etc., c'est pas si simple.
Bah, ça se fait pas, même.
Ça ne se fait pas, voilà.
Mais et justement, y a, tu sais, on a souvent parlé aussi déjà ici du permis de polluer.
Oui.
La fameuse compensation avec notamment Ryanair qui fait aussi toutes des campagnes de promo, comme quoi ils replantent des arbres, ils protègent les forêts. C'est la compagnie la plus verte.
The greenest airline in Europe.
Ouais, c'est fou. Et je parlais de ce fait-là, on a abordé vite fait au début de ta chronique, le fait qu'il y ait des champions de tennis, là, juste avant l'Open d'Australie. En effet, j'ai revérifié, c'est pas venu de nulle part cette info. C'est qu'en fait, ils ont fait des matchs d'exhibition en dehors donc de la compétition officielle, pour faire rapporter de la thune pour les sinistrés et les pompiers.
Donc ils étaient tout nus pendant les matchs?
Ben même pas, parce que je crois pas que ça a rassemblé énormément, parce que, en tout cas, eux, donc les deux gros stars, Roger Federer et Rafael Nadal, ils ont donné 150 000 euros à deux. Sachant que l'année dernière, Federer, il a gagné tout seul 93 millions. 93 millions, Nadal 35 millions, rien que sur l'année dernière. Mais à deux, donc 135 plus 93, ils ont donné 150 000 euros quand même. Donc là, on n'est plus dans le permis de polluer, je pense, parce qu'en plus, il ne faut pas croire, ces gens-là viennent avec tout un staff et tout ça en avion, etc. Là, c'est un permis de jouer, je pense. Un permis d'indécence, c'est, tu vois, pendant que ça crame, nous, on veut continuer, parce que ça va leur rapporter beaucoup plus que leurs dons, en fait. Donc c'est ça, la véritable arnaque et l'opération de communication. Entre ce qu'ils vont gagner au tournoi, mais ce qu'ils ont donné comme pourboire, c'est un pourboire, si on fait les proportions, franchement. Voilà, donc là, on est sur le permis de jouer, en fait.
C'est le même genre de stratégie qu'un Bill Gates quand il fait une fondation et qui donne son fric, et ce qui lui permet simplement de redorer la vitrine de l'entreprise pour faire encore plus de bénéfices.
Alors, et d'autre part, je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas être un peu mesquin, si je puis dire, ou trop cruel, mais si on regarde les chiffres d'investissement pour les infrastructures de l'Open d'Australie, à peu près au-dessus de 500 millions de dollars, hein, pour les dernières installations, avec bien sûr un président de cette fédération qui est un ami du Premier ministre, enfin, parce que tous ces gens-là se connaissent, évidemment. Eh bien, il ne faudrait pas regarder en comparaison par rapport au budget pour débroussaillage, etc. On serait un peu surpris. Voilà, on ne peut pas mettre de l'argent, plus de 500 millions de dollars, ne serait-ce que pour les installations, hein, je parle du bâtiment, avec des cours couverts, etc., etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans la charcuterie architecturale.
C'est pas trop radiogénique.
En tout cas, je n'ai pas voulu être cruel, mais si on regardait les chiffres pour l'Australie, de ce qui a été mis, ne serait-ce que dans le tennis. On pourrait rajouter le golf aussi, qui est une manifestation qui est un peu perturbée pour l'Australie. Donc le tennis et le golf, qui étant deux passe-temps un peu favoris de la gentry, si je puis dire, il manque aussi l'équitation. Il y a d'ailleurs des courses de chevaux qui sont suspendues en Australie, parce qu'on ne peut pas faire courir les chevaux en même temps qu'il y a trop de pollution. En tout cas, il y a beaucoup plus d'argent qui a été mis en Australie pour le tennis et pour le golf que pour les forêts. Voilà, ça c'est quand même un petit détail, vous pourrez regarder les chiffres. Il ne faut pas être mesquin, mais c'est comme ça.
Sachant que ce n'est pas qu'une question de chiffres à chaque fois.
Non, bien sûr. C'est un choix quand même,
et
bien sûr.
Cette évocation à plusieurs reprises du jeu m'évoque un passage que je lisais dans La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, où il oppose le jeu et le rite. Le jeu part d'une égalité des joueurs pour ensuite fabriquer une inégalité, alors que le rite part d'une différence et d'une inégalité des participants pour construire ensuite et arriver à la fin du rite à leur égalité dans leur dimension spirituelle, mystique, religieuse. Donc cette opposition entre les deux me semble, eh bien, simplement amener un peu d'air par rapport à ces évocations du jeu.
Merci Nino Rota pour cette musique, le thème principal, vous l'aurez peut-être reconnu, de La Strada de Federico Fellini. Federico Fellini, né le 20 janvier 1920.
Film sublime, La Strada.
Et un autre anniversaire que j'ai repéré pour cette date, c'était le 20 janvier 1871, autre année fameuse de ce fait-là. Et bien c'est la naissance d'Élisée Bastard. Moi, je le dis à l'anglaise exprès parce que son père est anglais, mais c'est Élisée, vous vous rendez compte, il s'appelle Élisée Bastard. C'est quand même un sacré nom et prénom, les deux collés ensemble. Donc, quand on voit marqué à cap dans les rues, là, all cats are beautiful, all children are bizarre, ou all cops are, eh ben, tous les cops, tous les policiers ne sont pas Bastard, et surtout pas Élisée Bastard. Parce qu'Élisée Bastard, c'est un garçon bouché. Bon, bah ça, certains flics sont quand même des garçons bouchés, en fin de compte. Mais Élisée Bastard, lui, il a été aussi polisseur sur métaux. Membre actif du groupe anarchiste de Saint-Denis. Le 20 février 1891, à Saint-Denis, Élisée Bastard participe à un refus collectif du tirage au sort pour la conscription et il est arrêté avec une vingtaine d'autres anarchistes.
À la suite du 1er mai 91 et de la vague de répression qui vise les milieux anarchistes, il fait l'objet d'une condamnation. Il séjourne brièvement à Londres, où il retrouve son père, Joseph Bastard. En 1892, il est condamné à 6 jours de prison pour vol d'un beefsteak chez son patron. Après avoir perdu son emploi, Paul Reclus, donc le fils de l'autre Élisée, Élisée Reclus, Paul Reclus fait embaucher Élisée Bastard au carrière de Varangéville en Meurthe-et-Moselle. Et Élisée Bastard y poursuit son militantisme en faisant la connaissance de l'anarchiste belge Désiré Pauwels, dont il partage la chambre. En août 1893, il est candidat abstentionniste dans la deuxième circonscription de Saint-Denis. Ça n'existe plus, ça, les candidats abstentionnistes, pour faire valoir le fait qu'il faut s'abstenir et juste faire passer de la propagande. Et il est ensuite victime des lois scélérates. Son domicile est perquisitionné le 1er janvier 1894 et il est détenu à la prison de Mazas à Paris. Poursuivi dans le procès des 30, il comparaît du 6 au 12 août 1894 devant la cour d'assises de la Seine avec 29 autres inculpés. 5 absents seront jugés par contumace. Mais en dehors des délits de droit commun, vol imputé à la bande à Léon Ortiz pour lesquels des pièces à conviction purent être produites, l'avocat général de ce procès des 30 ne put faire citer aucun témoin à charge et presque tous ceux qui avaient comparu furent acquittés. L'année suivante, Élisée Bastard militait toujours à Saint-Denis. Ensuite, on perd sa trace, nous dit sa biographie sur fmanar.net. C'est intéressant cette disparition dans la nature, donc de Élisée Bastard. C'était le clin d'œil pour cet anniversaire, 20 janvier 1871, sa naissance.
Ouais, Élisée, bah, décidément, hein, c'est un prénom hein, qui prédestinait, faut croire, à la pensée et à l'action anarchiste. Hein. En effet, tout de suite, j'ai pensé à Élisée Reclus, géographe assez génial, anarchiste, auquel on doit d'ailleurs un très bel ouvrage de géographie sur l'Amérique du Sud, et qui a notamment, avec des élèves, mis au point des pratiques de transmission, d'enseignement. Assez génial et en particulier il y en a une qui me vient à l'esprit, c'était des grandes promenades par cercle concentrique grandissant autour de l'école dans des petits villages, et les élèves au fur et à mesure des promenades ramassaient des morceaux de pierre, des plantes, et puis au fur et à mesure, quand ce village était dans un vallon, ils montaient sur les pentes alentour, et au fur et à mesure, à la rentrée de chacune de ces promenades, devaient construire ce qu'ils avaient vu en terre glaise et en y intégrant des éléments de plantes, minérales qu'ils avaient trouvés aux endroits qui représentaient dans la terre. Et finalement, ils arrivaient collectivement à reproduire en terre tout un espace avec le village en son centre et les pentes sur le côté, et qui leur permettait d'appréhender leur propre lieu de vie d'une manière assez complètement originale et géniale. Ça c'est le genre de pratiques pédagogiques qu'on doit à Élisée Reclus et qui aujourd'hui sont, par la forme qu'a pris l'école, ultra sécuritaire, hygiéniste, danger, faut pas sortir les enfants, rendu complètement impossible, alors que c'est tellement, tellement riche comme pratique d'enseignement.
Mmh. Après, il existe encore d'autres pédagogies que la grande officielle. Gens sont peu nombreux. La pédagogie freinée, notamment, on en avait beaucoup parlé dans une de ses émissions. Et le prénom Élisée, pour y revenir, c'est vrai qu'il s'est... J'ai l'impression qu'il s'est un petit peu perdu. Mmh. Est-ce depuis que maintenant, on considère beaucoup, on parle souvent du palais de l'Élysée, et donc ça a un peu fait peur. Alors que n'oublions jamais que dans la mythologie grecque, les Champs-Élysées, ou simplement l'Élysée, sont le lieu des enfers grecs où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur mort.
C'est des responsabilités. Oui, c'est moi, le locataire. Oui, le locataire.
Le locataire de l'Élysée. Alors celle-là, elle était imprévue, je vous le dis. Vous avez entendu juste après avoir parlé de l'Élysée.
Ça commence à se savoir.
Il y a eu. Oui, c'est moi, le locataire. Le locataire. Manu, t'es en double appel là.
Et une fois n'est pas coutume, un petit coup de pub. Hein. Brigitte, que vous entendez sur ses ondes, sera à Lille en février. Ne ratez pas ça.
Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid.
Annonce ce que tu veux, Chris.
Barrio Jazz après. Voilà.
Dans une minute trente. D'ailleurs, vu qu'on a parlé un petit peu de Saint-Denis via Élisée Bastard et qu'on a parlé de grève surtout. Ouais, ouais, je sais qu'on entend. Merci les copains, ils nous entendent. Il y a des auditeurs qui nous font signe qu'on est toujours à l'antenne. Bah ouais, il nous reste une minute. Mais donc on a parlé de Saint-Denis, n'hésitez pas à aller si vous avez l'occasion au Lundi Sauvage ce week-end, parce qu'il y a toute une journée de soutien aux grévistes de Saint-Denis, au Lundi Sauvage, L-A-N-D-Y. Et il y a aussi Simon.
Ah non, 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 okay. je n'en parle pas.
D'accord.
Il faut savoir parfois se taire.
Arthur, on va te prendre un peu au dépourvu, mais à chaque fois qu'il y a une personne qui vient pour la première fois, on lui laisse le mot de la fin.
Mais n'ayez pas peur.
Le mot ?
Bien à vous.
On sait ce que c'est que la race.
Salut, bonne semaine. Chouchou.
Bonnes ondes.